Donc, Anochi Hashem Elokecha, Mashal le Melech Basar Vadam, Shenichnas Lamdina. Alors, on prend un Mashal, une parabole. C'est la parabole d'un roi. Un roi qui va entrer dans la ville, dans sa ville probablement. Et alors, bien entendu, les habitants, ils vont briquer la ville. Azmechabdinota, Marbitsinota, Meatrinota, Mafrishin Kitaot, Vikelim Naim, Madlikin Nerot. Donc ils vont briquer la ville. On va la décorer, on va allumer de lumières, etc. Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Eniken. Kadosh Baruch Hu dit moi c'est pas comme ça. Ça, c'est lorsque c'est un roi, un homme qui veut entrer dans sa ville. Moi, c'est pas comme ça. Et là, Nichnasti Be'olami, je suis entré dans mon monde. Et c'est moi. C'est moi. Perastikitaot. C'est moi qui ai tiré des rideaux, en quelque sorte. C'est marqué dans le pasouk. Un pasouk du Navi, a noté Chadok Shamaim. C'est marqué effectivement dans le Navi Eshayahu. C'est Hachem qui dit effectivement je. Enfin, on parle d'Hachem. A noté, ça a étendu Chadok, les cieux. Shamaim, donc comme justement comme un rideau. C'est Hashem qui a étendu les cieux comme un rideau. Idlakti nerot shenema vayomer Elokim yehi meorot. C'est moi qui ai allumé des luminaires. C'est marqué Hashem a créé les meorot. Ribatsti maim shenema ikavu amaim. J'ai maîtrisé l'eau. C'est marqué, j'ai dit à l'eau qu'elle se rassemble. Itarti kol mache asiti, j'ai mis des couronnes, j'ai couronné tout ce que j'avais fait. C'est marqué, vaychulu hashamayim vaaretz vechol tzevaam. Donc c'est la couronne, c'est la phase terminale en quelque sorte. Voilà ce petit morceau de ce paragraphe là de Midrash. Alors évidemment, quel est le problème ici de ce paragraphe de Midrash? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il nous apporte de nouveau? Et en fait, on est sur un autre type d'explication, parce que on part du verset qui dit Anochi Hashem Elokecha, et on ne vient pas illustrer, semble-t-il, Anochi Hashem Elokecha, ce midrash, puisque ce midrash a l'air de dire bon, que Hashem est un melech, mais il n'est pas un melech comme. Comme les eaux, comme les rois de chair et de sang. Mais c'était pas dans Anochi Hashem Elokecha, il n'y a pas a priori, il n'y a pas de référence à la malchut. Alors dans le Marzou, il dit Pirush davar acher anochi velo amar anochi asher barati haolam. C'est-à-dire l'accent est mis sur le fait que Hachem ne se présente pas comme ayant créé le monde. En Matan Torah, Hachem ne dit pas Anochi Hachem Elokecha qui a créé le monde, mais qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors, lui, il dit que Doresh Pasuk Anote Kadok Shamaim, il est Doresh, les Psukim dans le Navi, sur cette histoire des rideaux tirés, ici, le ciel comme l'étendue du ciel comme un rideau. Dans le pasouk précédent, Allo Tedou, Allo Tishmeou, Allo Ugad Merosh Lachem, là on a expliqué chez Pirej Matan Torah, comme on a dit plus haut, les pasouk Lo Merosh Beseter vont Dibarti, Meteyota Sham. Donc quand Hachem dit Anochi, qui se présente en disant Anochi Hachem Elokecha, il leur a dit là-haut, on avait dit que Shebara Shamaim Vaaretz. Maintenant, effectivement, j'ai créé les cieux et la terre, et maintenant il Dlaktir, Ibatsti, Itarti. Là aussi, le Marzou dit je ne comprends pas très bien parce que sur quel passou qui se base pour dire tout ça. Comme il dit, Tzrichiyun, Eze pasuk doresh al dvarim elu, sheyeshayach le matan Torah. Donc lui, il reste avec une question. On ne sait pas exactement ce que veut dire ce midrash ici. En quoi est-ce que ce serait lié à matan Torah? Et le Etz Yosef, il commence tout en bas de la page. Il dit, Mefaresh, il explique, Data le Memar Anochi, chez Yaout, Yaout Liot Elokecha, Velo Acher, לפי שאיני כמלך בשר ודם שבני המדינה עושים לו כל העניינים הנ"ל מממונם, אבל הוא יתברך עושה כל אלה בעצמו לתועלת ברואיו. Lui, le Yetz Yosef, il entend que ce midrash vient dire Hachem se présente en disant bien, moi je suis particulièrement adéquat pour être ton Dieu, pour être le roi. Parce que les rois, en fait, c'est le peuple qui fait pour le roi. Et moi, c'est le contraire, c'est le roi qui fait pour le peuple. Le roi au service du peuple, plutôt que le peuple au service du roi. Et c'est ce qu'Hachem dit ici. Ces psukim, là, il faut les entendre de cette manière-là. Il fait par lui-même toutes les choses. Il ne demande pas du tout que les créatures le fassent pour lui. Donc ici, là aussi, c'est l'explication que donne... Et Yosef, c'est une explication, mais ça n'explique pas très clairement en réalité. On parle du pasuk Anochi Hashem Elokecha. Il n'y a même pas la malchut. Dans Anochi Hashem Elokecha, Hashem ne se présente pas comme étant le roi. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors, est-ce que là, Elokecha, ça inclut aussi la royauté? Ou alors, ici, il faudrait entendre revenir et utiliser la méthode qu'on a toujours utilisée, et se demander pourquoi est-ce qu'on commence avec un melech, avec un machal, pardon. Pourquoi commencer un machal? On aurait dû dire simplement, un roi demande à ses sujets de faire pour lui, et moi, je ne demande pas qu'on fasse pour moi. Pourquoi est-ce qu'on dit machal, le melech basar vadam? C'est une parabole d'un roi. Ani Eniken, moi je ne fais pas comme ça. Vous comprenez? On ne sait pas très bien pourquoi il faudrait introduire ici une parabole. D'ordinaire, la parabole, elle dit quelque chose du roi qu'on ne peut pas dire directement sur le roi. Mais ici, justement, on dit rien, puisque ce qu'on dit, c'est sur le roi Bassar Vadam, et Hachem lui-même, il dit, moi, je fais pas comme ça. Donc, est-ce qu'on a besoin de passer par une parabole? Pourquoi? Non, mais... Non, Akadosh Baruch dit, d'après le S. Yosef, c'est simplement, c'est pas. Dis-moi, je suis tout à fait adéquat, liyot elokecha, velo acher. Donc ici, c'est anochi velo acher. Moi, je peux être elokecha. Alors, est-ce qu'on veut dire par là que. Bon, ça explique pas, je ne sais pas bien expliquer pourquoi on a utilisé la terminologie machal ici. Mais ce que ça veut probablement dire, c'est que on utilise le mot melech ici, mais en fait, il veut dire divinité. C'est peut-être dans ce sens-là que c'est un machal. Tout est dit sous la forme de machal. Le machal, c'est de travailler avec la notion de Melech, alors qu'en réalité, dans Anochi Hashem Elokecha, on ne travaille pas avec la Malchut. On travaille avec la Elakut, le fait d'être une divinité, d'être Elohim. Oui? Hachem dit, c'est moi qui le fais. C'est vrai. Non, mais justement, je pense que le glissement de sujet, c'est le glissement de sujet de Melech à Elohim. On a passé de Melech à Melech. Dans le Melech, il y a où les sujets font pour le roi, où le roi fait pour les sujets. Mais justement, et c'est peut-être pour ça que ce que je viens de dire, peut-être c'est ça la raison du passage par un machal. Parce que sinon, on aurait dû dire une idole. Les idoles sont les hommes qui font pour les idoles. Moi, c'est moi qui fais pour les créatures. Le Midrash ne voulait pas dire mettre en place les idoles, etc., et comparer. Donc, on a parlé du roi, et on fait comme si. Anochi, moi, je ne fais pas comme ça, mais moi, Anochi, ce n'est pas le roi, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Elohim. C'est la même chose. Ce que tu dis là, c'est justement, c'est ça le point. C'est la raison pour laquelle on a passé par un machal. Le machal, c'est d'avoir utilisé la malchoute au lieu de la elakoute. Parce que sur la elakoute, on ne voulait pas le dire, on ne voulait pas comparer Hachem à des idoles. Et en plus, les idoles, elles ne peuvent pas faire. C'est le contraire, comme ce que tu dis. Là, ce sont les hommes qui ne peuvent pas faire, mais les idoles ne peuvent rien faire. ni ce que font les hommes, ni ce que Hachem fait. Les idoles elles-mêmes ne peuvent rien faire, évidemment. Mais ce que dit le Etz Yosef, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, parce qu'il utilise la terminologie. Regardez, la première phrase, tout en haut de la page de Shini Yom Dalef, Atal emema anochi she yaout liyot elokecha. Moi, je suis vraiment. Yaout, ça veut dire c'est raoui. Yot, d'accord. Je suis raoui d'être elokecha. Velo acher. Et personne d'autre. Le fils est ni que melech basar vadam she bnei amdina osim lo. Parce que je ne suis pas comme le roi. Alors, évidemment, comme un roi de chair et de sang. C'est pas seulement qu'il n'est pas comme un roi de chair et de sang, il n'est pas du tout comme un roi seulement. Il est bien plus qu'un roi. Le roi, il n'a rien créé. Lui, Hachem, c'est lui qui a créé les choses. Et le Kéra, c'est le. Je suis le créateur, et je suis celui qui. Suis vraiment en position d'être Elokecha. Parce que je peux, et je fais pour les créatures. Donc ici, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que HaKadosh Baruch Hu présente sa divinité, si vous voulez, comme une divinité pour les créatures. Bien que par ailleurs, on dise toujours qu'Hachem dit, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour moi, l'Ichvodi Barativ, c'est pour ma gloire que je l'ai créé, en fait, ici, il dit non. Bon, ultimement, c'est pour les créatures. Je fais les choses pour les créatures. Et en réalité, je ne demande même pas qu'on fasse des choses pour moi. Ça voudrait dire que tout ce qui nous est demandé, tout ce qui est mitzvot, ça où on pourrait penser qu'Hachem demande qu'on fasse quelque chose, ça, en vérité, c'est pour les créatures. Je ne demande rien pour moi, c'est seulement puisque, au contraire, je me mets au service des créatures. Alors, quand je demande quelque chose pour moi, c'est aussi pour les créatures. Il n'y a jamais rien qui est pour moi ultimement, d'abord parce que on ne peut rien me donner, j'ai besoin de rien. Oui, vous allez enfin pouvoir parler.
Non, pas du tout, mais c'est parce que je m'interrogeais sur le fait qu'il y avait quand même aussi une idée dans ce machal qui était que le roi a quand même besoin de ses sujets pour entretenir la médina, pour faire fonctionner, pour que ce soit en état, pour arranger.
Oui, mais ça, il n'en parle pas. On parle ici du roi qui vient en visite, et alors on va. La ville va se mettre sur son 31 pour recevoir le roi. Il dit Hachem, dis-moi quand j'arrive dans le monde. Je suis entré dans le monde et pas du tout. C'est, j'ai fait les choses pour les hommes.
Non, mais ça me rappelait un peu des choses qu'on avait aussi des fois discuté aussi dans le Midrash, qui est que Hachem semble dire des fois qu'il y a trop besoin
mais pas
des
ici.
Hommes
pour
arranger le monde en quelque sorte.
Oui, c'est juste, mais pas ici.
Oui, c'est ça.
Donc ça, c'est ce problème-là, c'est-à-dire cette divinité qui est au service des êtres. Oui. Je crois que vous avez raison. Je crois que ça concerne toutes les créatures et que les Bnei Israël, ici c'est les Bnei Israël qui jouent le rôle de l'humanité ici. C'est les Bnei Israël en tant qu'ils ont pris sur eux la charge de faire ce qui incombe à l'humanité. Mais vous avez raison. Ce qu'il fait, tous les psukim qui sont donnés ici sont des psukim qui parlent de la création. Il ne parle pas spécifiquement du clan Israël. Oui, ça aussi, c'est une remarque, effectivement, que dans Elokecha, c'est vrai, il y a Elokecha, mais il y a Elokim. Donc, et à la limite, je peux être pour toi, on peut peut-être dire ça aussi, parce que comment est-ce que je peux être pour toi? Parce qu'en fait, je suis pour tous les hommes. Pour tous les hommes, effectivement, pour toutes les créatures, comme Hachem dit, « Ani nichnasti be'olami ». C'est pas « je suis entré dans Yerushalayim » ou « je suis entré dans Eretz Israël », mais « olami » dans mon monde. C'est mon monde. Mais je crois pas. Je crois qu'effectivement, il faut bien prendre le machal pour ce qu'il est. C'est un machal, c'est-à-dire, j'ai dit ça sur le roi, mais je ne pense pas le roi. Je pense, en fait, Meler Bassar Vadam, je pense les idoles. Quoi. Les idoles demandent qu'on fasse pour elles, elles ne font rien. Et Hachem dit, moi, hein, je fais pour le monde. Donc c'est Elokecha, c'est seulement un machal. Parce que par la suite, c'est vrai que quand Hachem demandera au Bnei Israël, mais acceptez-moi d'abord comme roi. Le Melech, dans le Melech, il y a cette obligatoirement cette acceptation. Ici, Hachem dit, je suis vraiment adéquat pour être Elohim parce que moi, je fais pour les créatures. Zain. Anochi Hachem Elokecha, Melech Basar Vadam Bone Palatin. שמה יכול להזיז אותו ממקומו? אני אין לי כך שנאמר, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט. אני עשיתי שנאמר, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו. ואני אשא, ויקח השם אלוקים את האדם. דבר אחר, אני עשיתי כי ניחמתי כי עשיתים. ואני אשא לנוח, שנאמר, ויסגור השם בעדו, כמל הפוח דלחש. ואני אסבול שנאמר וירד השם לראות את העיר ואת המגדל, שזה בבל, ואמלט לאברהם, שסוברי אברהם, שנאמר ויאמר השם אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, c'est moi qui t'ai fait sortir d'אור כסדים. דבר אחר, אני עשיתי לישראל שנאמר הוא עושך ויכוננך ואני אשא שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים אני אסבול בעגל ואמלט שנאמר ויאמר השם סלחתי כדבריך. Bon, alors de nouveau une comparaison par rapport à Melech Basar Vadam, mais c'est pas présenté comme un machal. On peut dire que c'est comme avant, quoi. Mais le mot machal n'est pas réutilisé ici. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe? Un roi, hein, c'est vrai, alors, le roi il construit son palais, mais ensuite il ne peut plus déplacer son palais. Moi, hein, c'est pas comme ça. Ania City va ni essa, va ni esbol va malet. Moi j'ai fait, je bougerai, je supporterai, et je sauverait. C'est-à-dire que alors je me dis ici, on va regarder comment, avant de dire nous-mêmes, on va regarder un peu comment les commentateurs le présentent. Le Marzou, en haut de la page, bonnet palatine, construit le palais, la kavana al kol haolam. Ici, le palais dont on parle, c'est le monde entier. Shu menia galgal kulo tamid. Hachem met en mouvement tout le système. Venose auto, il le supporte. פסוק אני עשיתי ואני אסבול מדבר במתן תורה. Ce verset-là, il parle de Matan Torah, comme c'est marqué dans les psukim qui sont cités, enfin, qui sont écrits juste avant. Lo beseter dibarti, où Hachem dit, je n'ai pas parlé beseter en cachette. Au Sinaï, justement, Hachem s'est manifesté. Comme je katouv de Siman Akodem, ou ba Mechilta, pasuk ba Chodesh Hashlishi, od sham mi shmiya, etc. Bon, il apporte les preuves qu'on parle, que ce verset-là parle de Matan Torah. Vayas Hashem Elokim le Adam ou l'Ishto. Alors on aurait dû dire Vayas Hashem Elokim kotnot or velachen katu Vayas le Adam ou l'Ishto le drachazu. Donc pourquoi c'est marqué, évidemment que c'est l'Adam ou l'Ishto, c'est pour la dracha. Quelle dracha? C'est il a déplacé en le prenant en quelque sorte. Et moi, donc l'eau a monté, elle a porté l'arche, soulevé l'arche, elle a décroché. Enfin, l'arche n'était donc plus sur terre. Cette arche dans laquelle était évidemment Noach et tout le vivant. Vani esbol shenemar vayered Hashem lirot, veniach otam livnot vesaval. Alors je beaucoup à supporter qu'ils construisent cette tour jusqu'au moment où c'était insupportable. Vamalet l'Avraham, shaya bedor aflaga, et j'ai sauvé Avraham dans cette situation. Lui, il était dans cette génération de la tour de Babel. Et va avoir Abraham ben Terach. Abraham ben Terach a passé, verra otam bonim aïr, ve killam, shenemar, bala Hashem peleg le shonam. Machma que Abraham a passé devant les constructeurs de cette fameuse tour et il leur a donné une klala. Ça veut dire que lui, il avait déjà compris à ce moment-là que. Enfin bon, évidemment. La tour, elle est construite par Nimrod, qui est celui qui persécute Abraham. Mais au Kasdim, le Kasdim ou Shinar, ou Babel, Vaemtsu Bika Beret Shinar, Alken Karashma Babel, Ani Esbol Ba Egel, j'ai supporté aussi le Egel, Rahashem Machisimoto, Hashem a bien vu que. Ils étaient en train de faire quelque chose contre lui. Et néanmoins, il les a laissés faire. Avkiasu Aegel ou Masecha. Et il ne les a pas empêchés de faire. Et Omer Hashem, et après, ultimement, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme toi, Moshe, tu me l'as demandé. Et le Etz Yosef, Asiti, Asiti Shamaim Vaaretz, Ani Esa, Shemania Otam, il met le monde en mouvement, Margiz, Eretz Mimkoma, et il fait bouger la terre, sa place, Vani Esbol, Shtole Eretz Alblima, qui suspend la terre dans l'espace, Vani Shieshbi Koach Lechol Eile, Amalet Etchem, moi qui peux faire tout cela, moi je peux vous sauver, je vous sauverai de vos ennuis. Il dit des maïtikram et fareshle enami be Adam ve Noach ve Israël. Puisqu'on amène ce verset, alors on dit ça s'est réalisé à toutes sortes d'époques, autant de Noach, autant de Adam, autant de Klal Israël. Ani asiti she nema bidmut Elokim asa oto vani esa. Shenemar vaikach Hashem Elokim et Adam. Hashem Elokim a pris l'homme, il l'a mis dans le Gan Eden. Amar ani esa lashon nesiut, je supporterai et je dirigerai en fait. Vani esbol shenemar vayas Hashem Elokim la Adam lishto kotnot or vayal bishem. C'est-à-dire il a supporté la faute qu'ils avaient faite et il leur a fait des vêtements. Il les a pas abandonnés. Va malet et je sauverai. C'est marqué Hashem vaishalcheu Hashem Elokim migan Eden vaigaresh ta Adam. Il l'a chassé, mais en fait c'était un miklat. Il l'a sauvé. Il aurait dû normalement mourir et il s'en est sorti avec. Il est allé ailleurs, qui est un lieu de refuge. Le Roar Mizrahi et le Chaper Alav. Il est allé du côté de l'Est pour avoir Kapara. Kinichamti ki asiti, mashma she'asa otam, vekae ador hamabul. C'est-à-dire, je regrette de les avoir faits, cette génération du déluge. Vani esa le Noach, mais je vais pardonner à Noach, je vais supporter Noach. Je vais m'en occuper en fait. Hachem est allé jusqu'à fermer l'arche derrière lui. Il va yirbu amaim, va yisuet ateva, va atam. Va la aretz, va yired Hachem lirot, que ça va le chetam, toujours. Akadosh Baruch Hu a supporté leur faute. Velo asabaem klia, que dor hamabul, she chetam haya kashe mishelaem. Et en fait, la faute était encore plus grave, et néanmoins, il ne les a pas détruits. Vamalet la Avraham, Mikifshanaesh, je l'ai sauvé de la fournaise, Avraham. Velo imita kadosh bochou bavonota varishonim, achar sheikir et boro meaz. Et là, il dit, kadosh bochou a complètement oublié les fautes qu'Avraham avait faites avant de reconnaître Hachem. Parce qu'Avraham était idolâtre aussi au début. Chez la maison de son père, il était idolâtre au départ. Lui, il amène qu'Avraham Avinu, jusqu'à 48 ans, il n'avait encore pas reconnu son créateur, donc il a fait des fautes à ce moment-là, jusque-là. Et Hachem n'a pas tenu compte des fautes, il a sauvé Avraham. Qu'est-ce que ce Midrash-là vient ajouter, en fait? Alors, on a vu, disons, dans le paragraphe précédent, que Hachem est l'Elohim de Klal Israël et que c'est lui qui fait pour le Klal Israël. Et maintenant, on voit qu'il fait pour le Klal Israël, je vous ai dit, comme la suite de la remarque d'Ezra, c'est en fait pour l'humanité tout entière. Et ici, on voit bien que c'est un processus, effectivement, qui s'est fait pour l'humanité tout entière, pas seulement pour le clan d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hachem dit en fait, Anochi Hachem Elokecha, je suis Elokecha, et l'accent est mis ici sur le fait que je peux tout. Je peux tout bouger. Et le fait de pouvoir tout bouger, ça veut dire que je peux tout supporter. Je reste le maître de tout ce qui a été construit à tout moment. Et alors, la suite, c'est, au fond, je reste le maître et je ne tiens pas compte des fautes. Il s'occupe d'Adam et Chava, bien qu'ils aient fauté. Il s'occupe de Noach, il s'occupe des gens même de Noach en tant que personnage appartenant à la génération du déluge. Il s'occupe des gens, il s'occupe d'Abraham en tant que personnage appartenant à la génération du Dor HaFlaga, de la génération de la tour de Babel. Il s'occupe des Bnei Israël, bien qu'ils aient fait le Hegel. Bon, donc il y a cette idée que cette puissance d'Hachem, c'est, semble-t-il, celle-là qui lui permet de pardonner, qui lui permet en fait d'être au-dessus des hommes, pas seulement, évidemment il est au-dessus d'eux, mais au fond il est même plus fort que leurs fautes. C'est-à-dire que on aurait pu imaginer que quelque part, si les hommes fautent, Et si Hachem, à la suite de leur faute, est obligé de détruire le monde, il est obligé de... etc. Donc finalement, ça voudrait dire que les hommes ont une puissance sur Hachem. Hachem crée un monde, et puis les hommes peuvent très bien dire, ben, nous, on va faire échouer ton plan. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'Hachem a montré que je ne suis... le roi, quand il construit son palais, il ne peut plus le bouger. Ça veut dire, voilà, j'ai mis des règles, et est-ce que je suis complètement prisonnier de mes règles? Et Hachem dit non, je ne suis pas complètement prisonnier des règles. Il y a toute cette idée de miséricorde d'Hachem, enfin de ce que malgré la conduite des hommes, Hachem fait ce qu'il veut, il continue de s'en occuper. Donc quelque part, ça veut dire, vous ne pouvez pas m'obliger, vous ne pouvez pas faire échouer mon projet si j'en suis pas d'accord. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas m'obliger à détruire le monde si je ne veux pas. Vous avez fait ce qu'il fallait pour faire échouer le projet, que ce soit Adam, que ce soit la génération du déluge, celle de la tour de Babel, que ce soit le Dordéa avec le Hegel, etc. Dans toutes les générations, les Bnei Israël, enfin d'abord l'humanité, puis ensuite les Bnei Israël, font des choses dont on pourrait penser qu'elles obligent en quelque sorte Hachem à... Il est coincé, il a construit son palais avec des règles. Il dit non, pas du tout, moi je prends le palais, je le déplace. Je détruis le monde, mais je sauve Noir. Je détruis la tour, mais je sauve Abraham. Bon, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, ici, l'accent est que, même après la... C'est presque comme si on disait, ici, même après la création, finalement, Hachem est absolument souverain. Bien qu'il ait donné un énorme pouvoir aux hommes, mais il reste souverain. C'est-à-dire, il y a des limites que les hommes ne... En quelque sorte... Vous ne pourrez pas m'obliger à détruire le monde si je n'ai pas décidé de le détruire. D'être
remodelé,
oui. Oui, parce que Hachem dit Hachem. En fait, la fin du Midrash pose un peu un problème par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce que Hachem, Vayomer Hachem, Salarti, Kidvarecha. C'est le Kidvarecha. Kidvarecha qui dit vrai Moshe. Il dit à Moshe, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Alors du coup, ça veut dire que c'est les hommes qui demandent. Mais on peut aussi dire que c'est Hachem qui, en quelque sorte, là-bas, quand Moshe Rabbeinu a demandé le pardon, il l'a fait parce que Hachem lui a dit « Laisse-moi, je vais les détruire. » Et le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ça, il a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire « Laisse-moi » Je pourrais donc ne pas te laisser. » Quand tu dis « Laisse-moi faire », ça veut dire « Normalement, tu pourrais m'empêcher de faire. » Alors Moshe a compris « Je peux empêcher Hachem de détruire le clan d'Israël. » Et donc, Hachem lui dit, « C'est Kidvarecha. » Mais en vérité, ce n'est pas vraiment Kidvarecha, puisque je t'ai soufflé de... Hachem aurait pu dire, « Je détruis les Bnei Israël, point barre. » Moshe Rabbeinu n'aurait pas eu de possibilité d'intervenir. Il aurait pu négocier, essayer de discuter, mais peut-être la discussion aurait pu être la même discussion que celle d'Abraham Avinu pour essayer de sauver Sdom, mais ça ne marche pas. Mais c'est pas comme ça. Hachem lui a dit laisse-moi, et donc le Midrash dit, mon cher Abinou a entendu ici qu'Hachem lui ouvrait une porte. Il lui disait, mais tu sais que tu peux ne pas laisser. Je ne le ferai pas si tu. Mais néanmoins, ça va très loin parce que c'est présenté comme si c'était une initiative de mon cher Abinou, et comme si Hachem, dans ce cas-là, il avait cédé à Moshe Rabbeinu. vous connaissez bien, là, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu insiste pour entrer en Eretz Israël, alors il y a un midrash qui dit qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, dans l'histoire du Hegel, dans l'histoire du Vaudor, moi je voulais les détruire, toi tu ne voulais pas. Et j'ai cédé. Maintenant, moi je ne veux pas que tu entres en Eretz Israël, toi tu veux entrer. Ça ne peut pas être tout le temps moi qui cède. Maintenant c'est à toi à céder. Mais si tu veux, on refait l'histoire, et au lieu que ce soit moi qui cède après le Vaudor, c'est toi. Et à ce moment-là, tu entreras en Eretz Israël. Mais il faut que tu acceptes que je détruise le clan Israël à ce moment-là, que je continue avec toi. Et à ce moment-là, toi, tu entres en Eretz Israël. Donc c'est présenté à Moshe Rabbeinu comme si on a négocié, hein, c'est moi j'ai cédé une fois, maintenant c'est à toi de céder. Mais si tu veux, on peut recommencer. Toute l'histoire, il n'y a pas de passé, pas de présent, et de futur. Ok, on recommence. Mais cette fois-ci, là, au premier coup, c'est toi qui cèdes. C'est-à-dire, moi je veux détruire l'Ebné Israël et continuer avec toi. Si tu es d'accord, alors moi je cède dans la deuxième fois. Quand je te dirai que tu ne veux pas entrer en Eretz Israël, tu pourras entrer. C'est moi qui vais céder. Tu vas entrer. Et mon cher Rabbeinu dit non aussi. Je ne veux pas. Je ne veux pas, comme il avait dit, je ne suis pas un nouvel Abraham, je ne veux pas que ça recommence avec moi. Mais c'est ça le côté extraordinaire ici, c'est qu'Hachem dit, moi je peux pardonner tout, mais là, à la fin, tout à la fin, c'est comme si un clin d'œil du Midrash qui dit, mais Hachem dit, j'ai pardonné, mais tu sais, j'ai pardonné à cause de toi. Kidvarecha, comme tu l'as demandé. C'est justement pas comme ça, c'est justement pas aussi tranché que cela. Ben ça se présente justement, si vous voulez, de ce point de vue-là, on pourrait très bien dire le concept absolu de choix, si vous voulez, ben il n'est pas adéquat. C'est pas adéquat, c'est pas parce qu'on a décidé d'utiliser cette notion-là qu'elle est obligatoirement adéquate. C'est pas comme ça que ça se présente par rapport à Hachem. Entre deux personnes, entre deux entités, deux institutions, etc., il faut effectivement choisir. Mais là, on n'est pas du tout. Les deux ne jouent pas dans la même cour. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem nous donne l'impression. Donne l'impression à Moshe Rabbeinu, Kidvarecha. Mais quand on regarde un peu plus près, on voit bien que ce n'est pas comme ça. Mais tout se passe comme si pour nous. Nous étions en charge de choisir. Et effectivement, on doit choisir et ça dépend de notre choix. Maintenant, comment est-ce que ça peut s'intégrer en même temps dans un plan divin? Ça, c'est le problème d'Hachem. C'est pas notre problème. Ah, nous, on ne sait pas faire ça. C'est pas parce que nous, on ne sait pas comment on fait ça qu'Hachem ne peut pas le faire. Vous comprenez? C'est simplement. Si on fait un raisonnement humain, alors oui, évidemment, comme vous dites, on doit trancher. Et là, on n'est pas du tout obligé de trancher, parce qu'on n'a pas deux situations entre lesquelles il faudrait trancher qui sont homogènes l'une à l'autre. Elles ne sont pas homogènes, justement. Comme Hachem dit dans le Navi, il dit « L'eau marche votechem ». ma pensée n'est pas votre pensée. C'est-à-dire, comme le fait qu'Hachem sache des choses, ça ne nous empêche pas d'être libre. Ah, et nous, on ne sait pas. Si on sait, alors je suis plus libre. Mais ce n'est pas comme ça. Le savoir d'Hachem, il n'est pas homogène à ça. Le savoir d'Hachem, il n'a rien à voir avec tout ça. On peut agir, on peut réfléchir et agir comme si, du point de vue de mes obligations, comme si Hachem ne savait pas. Mais d'un autre côté, notre émouna dans la toute-puissance d'Hachem, elle nous oblige, n'est-ce pas, à savoir qu'Hachem sait tout et peut tout. Et je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non, mais je vous explique. Il n'y a pas. Ce n'est pas un problème, ce libre arbitre. Parce que cette question que vous posez, elle se pose seulement si on doit choisir entre deux éléments. La notion de choix, n'est-ce pas, elle n'a pas de sens entre des choses qui n'ont rien à voir. Je ne vais pas choisir entre une poire et une pomme. Je peux choisir entre deux pommes ou entre deux poires, mais je ne vais pas choisir entre une poire et une pomme. Ou je veux une poire ou je veux une pomme, ce n'est pas la même chose. Mais c'est ça, la même chose. Le libre arbitre, c'est... Mais je comprends pas, parce que je vois pas ce que ça a à voir avec notre affaire ici. Moshe Rabbeinu, il a demandé pardon. Hachem lui dit, j'ai pardonné parce que tu me l'as demandé. Mais on sait, en fait, nous savons pertinemment que c'est Hachem qui a soufflé à Moshe Rabbeinu, demande-moi, dis-moi de pardonner. Est-ce que Moshe était libre si Hachem lui dit, quand Hachem lui a soufflé, est-ce que Moshe était libre de ne pas le faire? Il entend qu'Hachem lui dit, demande-moi de pardonner, ça veut dire, je veux que tu me le demandes. C'est pas chaire de ne pas le demander. Pardon? Mais bien sûr qu'il a conscience. Bien sûr, c'est ça le... Tout le Midrash, c'est ça. Le Midrash dit, justement, qu'Hachem a... que Moshe a compris qu'il avait là une obligation de demander. En quelque sorte, c'est une façon de comprendre que, d'une certaine manière, c'est vrai, le clan Israël n'a plus droit à la vie, et il demande, mais pardonne-leur. Pardonne-leur, pardonne l'impardonnable. C'est impardonnable, mais pardonne-leur quand même. Pardon ? Absolument sûr. Oui. Ben justement, ça va tout à fait dans ce sens-là. Mais quoi ? Mais il peut pas demander un pardon quand ils ont fait exactement. C'est difficile de pardonner, comme Chazal dit, c'est la kala qui adultère sous la choupa. Ils sont au Sinaï et ils font un avodah zara. Ça veut dire si Hachem dit je vais détruire le clan Israël, ça veut dire le clan Israël mérite d'être détruit. Mais Hachem lui dit, laisse-moi. Ça veut dire, c'est pas pardonnable. Mais demande le pardon quand même. Et je céderai. Je céderai parce que tu l'as demandé. Parce que tu demandes, alors. Bon, le clan d'Israël demande. Mon cher ami nous représente le clan d'Israël. Le clan d'Israël demande. Il demande pardon. Il demande pardon sur l'impardonnable. Ça fait. Hachem, l'impardonnable, il le pardonne aussi. Mais il ne l'a pas pardonné sans. C'est seulement un sursis qu'on a eu. Comme je vous ai déjà dit souvent, le sursis est tombé au Meraglim. À ce moment-là, ils sont effectivement tous morts. Pardon ? Bon, ouais, on continue à subir. Mais évidemment que si vous voulez tel qu'on le dit, si les Bnei Israël ne sont pas entrés quand ils sont à cause de ça, ils ne sont pas entrés en Eretz Israël, oui. Cette génération là qui a le titre le plus extraordinaire, cette génération s'appelle Dor Dea, la génération du Da'at, oui. S'appelle Dor Dea. Ce Dor Dea, ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Ils sont morts dans le désert à cause de l'Avodah Zara, version et plus l'histoire des Meraglim. Ça va de pair. Et du coup, eux ne sont pas entrés en Eretz Israël. Ne sont entrés en Eretz Israël que leurs enfants. Et ils sont entrés plus tard. Et puisqu'ils sont entrés plus tard, pendant ce temps-là, en Eretz Israël, la Avodah Zara, elle a continué à se développer. Les Cananéens qui étaient là-bas, ils n'ont pas chômé. Ils ont développé une idolâtrie encore bien plus puissante. Et quand on est entré, nous, à ce moment-là, 40 ans plus tard, en Eretz Israël, on a été confronté à cette idolâtrie installée qui avait pris racine dans la terre d'Israël. Et nous, on était plus faibles. Parce que les gens qui avaient vécu pleinement le Sinaï, enfin, dans l'ordre, la sortie d'Égypte, les Makot, la sortie d'Égypte, le passage de la mer, le don de la Torah au Sinaï, ces gens-là, qui en tant qu'adultes l'avaient vécu, n'étaient plus là. Et donc, ceux qui étaient là, c'est les gens, ou les enfants qui ont vécu ça en tant qu'enfants, ou ceux auxquels on a raconté. Alors bon, c'est très bien, mais on leur a raconté seulement. Et ils étaient évidemment plus faibles. D'une part. Et ensuite, ils se sont encore affaiblis parce que il y avait un partage des Eretz Israël. Et les Bnei Gad et les Bnei Rouven, ils ont dit, ben, nous, on est très bien là, on trouve les pâturages super, on passe pas le Jourdain. Bon, alors, Moshe a dit, ok, si vous venez nous faire la guerre, après, mais du coup, eux sont restés de l'autre côté. Ça veut dire qu'on n'a pas partagé Eretz Israël comme on aurait dû. Donc, du coup, puisqu'on a partagé ce côté du Jourdain, entre le Jourdain et la mer, on l'a partagé en 10 au lieu de, enfin en 9 et demi, en 10, disons, au lieu de 12. Donc rien n'était à sa place. Donc en Eretz Israël, on ne s'est jamais installé à notre place. Tout ça à cause du veau d'or, etc. Donc si on n'était pas à notre place en Eretz Israël, chacun n'était pas à sa place, donc on n'a pas pu donner ce qu'on était capable de donner. Si Hachem avait prévu de mettre cette tribu ici et celle-là là-bas, c'est que c'était la terre, le sol adéquat pour cette tribu, c'était ici, et on a partagé autrement. Puisqu'on devait partager en 10, qui normalement devait se partager en 12. Donc plus rien n'était à sa place. Et donc on n'a pas, Eretz Israël, on n'a pas habité comme il aurait fallu. Alors maintenant, le reste de la suite, c'est de la fiction. Je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé si on l'avait habité comme il fallait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas à sa place. Et donc, on peut imaginer que quand on n'est pas à sa place, évidemment, les choses ne peuvent pas aller bien. C'est pas très difficile de comprendre ça. Et donc, quand vous dites, on le paye encore aujourd'hui, oui, c'est possible. Je ne sais pas. Pas exactement comment, mais... C'est pas la faute elle-même, c'est... Ça s'est développé autrement. Il y a toujours la volonté que... À part le fait qu'on est tombé à cause du sursis, mais il nous a pardonné, mais ça ne va pas jusqu'à faire comme si on avait bien fait ce qu'on a dû faire. Pardonner, c'est que vous n'êtes pas définitivement disqualifié. On a le droit de continuer de jouer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au but. Quand on pardonne, ça ne veut pas dire que... Si on veut... Si quelqu'un... Même dans les choses beaucoup plus légères, si on veut. Il y a une halakha que si quelqu'un est anus, il ne fait pas une mitzvah. Il est anus, il ne peut pas manger de la matzah, il ne mange pas de matzah. Ok, alors il ne va pas être puni pour ne pas avoir mangé de matzah à Pessah. Mais on ne va pas le récompenser comme s'il en avait mangé. Ok, il ne paye pas. L'absence de consommation de matzah, ça c'est un fait. Alors, dans certaines circonstances, c'est marqué Ma'ale ani alechem keilu. Si vous faites ça, alors je considérerai que c'est comme si. Et c'est toujours à partir du moment où on a vraiment fait quelque chose. Qu'on n'a pas fait. Parce que la fameuse dracha qu'on a vu déjà quelques fois sur Vasite Motam, sur le troisième paragraphe du schéma, Vasite Motam, où on dit Vasite Motam, Vasite Matem. C'est-à-dire, Hachem dit, si vous faites la mitzvah de Tzitzit en réalité, et vous faites les mitzvot en général, je considérerai que c'est comme si vous aviez inventé les mitzvot, et plus encore, je considérerai que c'est comme si vous vous étiez fait vous-même, asitem matem. Mais ça, c'est quand on fait les mitzvot. C'est gigantesque. Effectivement, on fait des mitzvot et c'est comme si on était. Voilà, on s'est fait soi-même. C'est une accession à la divinité. Par le biais des mitzvot.
דבר אחר, מלך בשר ודם יוצא לאמירה, יוצא יחידי, נלחם, יוציא נימו, ריבי רבבות. והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא כשיוצא למלחמה, יוצא לעצמו, שנאמר השם איש מלחמה, וכשהוא יוצא לתת תורה בסיני, יצאו עמו ריבי רובבות שנאמר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שינן. Donc on continue dans la différence entre Hachem et un roi de chair et de sang. On dit qu'un roi, quand il fait la guerre, alors il prend son peuple avec lui. quand il parle tout seul. Là, il est le seul à parler. Il est... Et Hachem dit, non, moi, c'est pas du tout comme ça. Quand je fais la guerre, quand Kadosh Baruch Hu fait la guerre, il l'a fait seul. Hachem ish milchama. Il n'y a que lui. Hachem ilachem lachem vatem tacharishun. Hachem va, va combattre pour vous et vous taisez-vous. C'est ce qu'Hachem a dit au Bnei Israël. Mais par contre, quand il vient donner la Torah, alors ça c'est le... On avait déjà vu ça. Quand il vient avec Ribotai Malfeshinan. Il revient avec 20, il vient avec 22 000 anges. Et il s'est présenté comme que chez Oyotse, la tête Torah Bessina Yatsu Imo. Donc quand il vient pour donner la Torah, il y a 22 000 anges qui viennent avec lui. C'est un peu étrange. Là, il, on a, parce que venir avec, c'est faire participer. Comme si ces anges-là, eux aussi faisaient partie de... Ils sont aussi en train de donner la Torah. Parce que c'est simplement pour dire que qu'il y a du monde dans son cortège, alors c'est pas une mahala. Quand on dit du roi que le roi, quand il va faire la guerre, il va avec tout le monde, c'est pas que les gens viennent l'entourer, c'est lui qui va combattre. Il va faire combattre tout le monde. Ben Hachem fait la même chose quand il donne la Torah. Et on avait vu que les Bnei Israël, dans l'histoire des Dgalim, quand on avait parlé des drapeaux, que les Bnei Israël ont vu que tous ces anges avaient tous des, ils étaient là organisés avec leurs drapeaux. Les Bnei Israël ont aussi voulu avoir des drapeaux. Les Galim dont on parle dans la parasha de cette semaine, les Degel de chaque Mahané, etc. Mais on a aussi cette idée que les anges, qui sont la parole divine, on avait vu même plus haut que quasiment Hachem, il n'est pas vraiment descendu. Il a envoyé les anges. Là, ici, c'est marqué Imo, ils viennent avec lui, mais eux aussi donnent la Torah. Donc c'est la grande, cette grande différence ici, c'est que dans la parole divine, elle se donne comme une parole multiple, quoi, finalement. Alors que la parole humaine, la parole du roi, c'est il est seul à parler. Et dans l'action, dans la guerre, l'action, c'est Hachem qui fait les choses. La guerre, c'est le problème d'Hachem. Alors que les rois, ils ne considèrent pas que c'est leur problème, ils envoient tout le monde au casse-pipe, quoi. Oui. River, ça veut dire des myriades.
Pour parler, pour faire un
choix, c'est ça. C'est bon.
Ah, pas
pour
oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Le roi, il parle seul, oui.
Non, non, justement. Oui, il n'est pas complètement seul, il a quelques...
Ah, eux, ils disent, Yachidi, c'est avec des gens. Où est-ce qu'elle est, cette note? 8. It's but few attendants. Ce qui veut dire qu'un roi, il n'est jamais tout seul. Là, c'est un roi qui va négocier, quoi. Il va négocier pour la paix. Donc, il y a un renversement entre les deux, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours dans le commentaire d'Anochi Hashem Elokecha, n'est-ce pas? Le don, la parole. Mais c'est un peu difficile. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Parce que ça c'est dit sur cette guerre là, sur la guerre de sur la mer, au moment de la mer, oui, au passage de la mer. Mais par la suite, quand les Bnei Israël vont faire la guerre contre Amalek, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, choisis des guerriers, enfin Yoshua quoi, et Yoshua il est sur le terrain, ils font la guerre, il y a des vrais guerriers qui font la guerre. Et Hachem, quand il pense à Hachem, alors il gagne. Quand il voit les mains de Moshe qui indiquent le ciel, il gagne, et autrement il perd. Mais là-bas, c'est pas marqué Hachem Ishmilchama là-dedans. Hachem ne s'est pas montré systématiquement comme faisant la guerre. C'est vrai que dans la Gemara, la fameuse Gemara au début d'Avodah Zarah,
c'est toujours Hachem qui fait.
Oui, mais là-bas, il a pas, là-bas, les Bnei Israël ne sont pas battus à la Yam. Ils n'avaient pas d'armes, ils ne se sont pas battus. Ce n'était pas une guerre contre... Les Égyptiens étaient armés, eux, ils n'étaient pas armés. Et les Égyptiens eux-mêmes disent « Hachem ilachem lahem »« Hachem nilcham lahem » Il faut fuyons parce que c'est Hachem qui se bat contre nous. Ce n'est pas eux qui se battent contre nous, c'est Hachem qui se bat contre nous. Hachem ishmilchama, Hachem à lui tout seul, en quelque sorte, il était l'ennemi de l'Égypte. Mais ça ne s'est plus reproduit par la suite. Et c'est vrai que, je vous dis, dans la Gemara du début d'Avodah Zarah, quand les Romains disent qu'ils ont fait des guerres, et que, bon, ben, grâce à la guerre, il y a eu des mélanges de populations, etc., ils ont amené la civilisation, etc., alors Hachem dit, la guerre, c'est moi. La guerre, vous ne pouvez jamais vous targuer d'avoir fait la guerre, même positivement. La guerre, dit Hachem, c'est moi. C'est mon problème. Là, le problème de l'argent, c'est Hachem. Le problème de la guerre, c'est Hachem. Regardez la Gemara au tout début de Rabbi Elazar. Donc, bon, ici, on n'apporte pas cette Gemara-là, on apporte l'Hachem Ishmil Hama de Kriyat Yamsouf, du passage de la mer pour sortir de l'Égypte. Et là, Hachem, en quelque sorte, ça veut dire que dans cette situation-là, c'est Hachem qui s'implique, tout ça. Alors que les rois ne s'impliquent pas, seuls en tout cas. Tandis qu'ici, Hachem, le problème de la guerre, il le règle complètement. C'est-à-dire que. Mais ça veut aussi dire que les lois de la guerre, dès lors qu'Hachem se mêle, les lois de la guerre ne sont plus les mêmes. Si c'est Hachem qui Ishmil Hama, alors comme ça s'est passé effectivement avec. Au passage de la mer, où les Bnei Israël ne sont pas du tout battus. De la même manière, quand Avraham Avinu se bat contre les quatre peuples, là-bas les rois, il ne se bat pas vraiment, il leur lance de la paille et de la paille et du sable, et il les bat. Mais bon, il fait des gestes symboliques, c'est Hachem qui transforme tout, et eux, ils prennent, ce sont des armes qui leur tombent sur la tête. Est-ce qu'on voit eux envoient des armes, ce qui tombe, c'est de la poussière. Et...
C'est ce que ça vient nous montrer là, c'est que justement, quand un roi veut faire un traité de paix, c'est ce qu'il s'agit, donc il veut amener quelque chose de positif, il vient seul ou avec ses proches conseillers, parce que tout le cavote, ça veut dire qu'on sort sur lui, il va retomber sur lui. Mmh. Et de la même façon,
oui, c'est ça. C'est juste. Mais spécifiquement par rapport à ce qu'on a déjà vu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là maintenant? Quel point nouveau? C'est-à-dire que même le don de la Torah est présenté comme Hachem, c'est comme si en fait ce sont les créatures, disons. C'est le monde qui va développer la Torah, qui donne la Torah. Comme si la Torah était donnée par les anges, par le monde, et pas par Hachem seul, en tout cas. Bien que ce soit marqué Elohim, mais là justement, Hachem Elokecha, et qu'est-ce que c'est moi, mais qu'est-ce que c'est moi? Moi, c'est, dans ce cas-là, c'est avec tous les anges. C'est cette idée qu'on avait déjà vue, qu'effectivement, on avait même vu, me semble-t-il, que Hachem n'était quasiment pas descendu sur le Sinaï. C'est les anges qui sont descendus sur le Sinaï. C'est-à-dire que la Torah, les ordres d'Hachem, les paroles d'Hachem, sont descendues sur le Sinaï. Donc, du coup, c'est pas une parole qui est complètement détachée, mais c'est une parole qui est ultra riche. Mais elle est riche, même. Elle n'a pas perdu de sa richesse parce qu'elle est venue par les anges, en quelque sorte. Elle ne perd pas de sa richesse parce qu'elle vient par les Chachamim. Ça reste toujours une parole ultra riche. Et elle est. C'est le contraire de cette parole du roi qui vient prendre son kavod en proposant la paix. Ici, Hachem propose la paix, c'est-à-dire la perfection, mais il n'apparaît quasiment pas. Il est noyé quasiment dans les 22 000 anges. Il ne tire pas du tout la couverture à lui. Tout ça, c'est, on peut toujours l'utiliser comme, le voir comme comme Hachem disant, je suis vraiment adéquat d'être ton Dieu en fait, parce que c'est, tout est pour toi, je te laisse complètement la place. Être ton Dieu, ça veut dire ici, je suis ton Dieu qui te laisse de la place. Elokecha. Bon, c'est pas je te domine toi en particulier, mais Elokecha au sens où je suis Elohim pour toi. C'est pas toi qui m'en faire valoir, je suis à ton service en fait. Voilà, on va s'arrêter là. Donc on est aux têtes. Oui, le tête, c'est...
Oui, il a l'air d'être construit différemment, comme si c'était une sorte de conclusion générale, je crois. Ah non, c'est comme... Moi, c'est une idée.
Pardon, c'est
pour le tour de ta chacun. Il y a un chèque qui est arrivé.